Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Les concerts, les opéras, les festivals à Toulouse et en Midi-Pyrénées comme si vous y étiez. Et en ce moment, il est difficile d'assister à tout ce que nous offre l'agenda musical, tellement les propositions sont nombreuses en ce mois de décembre. Il faut dire que c'est le cas chaque année à cette période. Nous allons toutefois essayer de vous présenter cette actualité aussi exhaustivement que possible avec les camarades Mélomania qui ont accepté de m'assister dans cette tâche aujourd'hui. Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, est de nouveau au rendez-vous. Également présent dans ce studio, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Ils sont accompagnés par Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre En Harmonie, membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et puis une invitée d'honneur cette semaine, Sandrine Tilly, flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole et vice-présidente de l'association Gabriel Fauré, dont le premier concert de la saison a lieu jeudi prochain 14 décembre à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Bienvenue à tous les quatre et merci d'être à mes côtés. Place maintenant à l'actualité de la semaine passée avec la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
La semaine dernière, la Halle aux Grains de Toulouse a été l'écrin de trois concerts successifs très prestigieux. La saison des grands interprètes y a accueilli jeudi le chanteur Philippe Jarouski et l'ensemble Artaserse, puis samedi le violoniste Renaud Capuçon et l'orchestre de chambre d'Europe. Entre-temps, le vendredi, c'est le pianiste Bertrand Chamaillou et l'orchestre national du Capitole qui s'étaient invités à la fête. Une sorte de marathon musical pour les chroniqueurs de cette émission qui ont assisté à ces trois concerts. Les deux très bons élèves ont été Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy. Nous allons procéder dans l'ordre en commençant par le concert de Philippe Jarouski et de l'ensemble Artaserse jeudi. Ils ont interprété une ouverture et des airs d'opéra de Handel. Est-ce que ce programme et son interprétation ont été à la hauteur des attentes, les attentes que suscite toujours Philippe Jarouski lorsqu'il vient dans la Ville Rose?
Ah oui, tout à fait. D'autant plus qu'il venait de publier un enregistrement, un album CD, qui reprenait ce programme avec quelques ajouts, évidemment, dans le CD. Et donc, oui, on a retrouvé Philippe Jarouski tel qu'en lui-même. Hein. Donc, d'abord, une voix d'une beauté extraordinaire. On parle souvent à son propos de voix des anges. Alors, ça l'agace un peu, parce qu'il n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'une voix angélique, hein, heureusement. Et donc, sa virtuosité, qui est d'une aisance incroyable, dans les airs à vocalise
sa précision, hein,
les
vraiment
plus complexes, il est très à l'aise. Et puis surtout, je dirais, le pouvoir expressif et la variété des climats qu'il arrive à tisser dans des airs extrêmement différents, puisque les opéras de Handel, il y en a une multitude avec une quantité d'air stupéfiante. Hein, et avec ces fameux airs qui sont des arias da capo. Alors, aria da capo, c'est un air, on répète. Alors, si on répète de manière identique, ça n'a aucun intérêt. Or, lui, Philippe Jarouski a l'imagination suffisante pour ornementer les répétitions, le da capo donc, de manière tout à fait imaginative et tout à fait riche et belle. Donc c'était vraiment un magnifique concert, hein, avec la tendresse parfois, comme dans l'opéra Flavio, Re dei Longobardi, ou la colère, comme dans le tout dernier air qu'il a donné à la fin du concert, un air de colère. Il était complètement déchaîné, un air extrait de Flavio encore, et donc qui s'appelle Rompoilacci, c'est-à-dire
je romps les liens.
Romps les liens, voilà.
Rompons les liens.
Rompons les liens. C'était impressionnant. Et avec des moments d'une tendresse incroyable, où le temps s'arrête un peu, où il y a un grand silence tout d'un coup, et un pianissimo, c'est vraiment un grand contre-ténor. Hein.
Anne-Marie.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Serge. Et je trouve qu'aujourd'hui, après l'avoir entendu depuis ses débuts, on dirait que Philippe Jarouski n'a plus rien à prouver. Il chante avec cette voix de contre-ténor, qui est une voix de tête. Et il ne cherche pas à jouer, comme on l'a fait à une époque, un peu les castrats, entre guillemets, puisqu'il fallait ressusciter tout un répertoire basé souvent sur la performance et la virtuosité. Aujourd'hui, il chante avec naturel et il prête à ses airs d'opéra, comme vient de le dire Serge, surtout de l'émotion. Il y a de la virtuosité parfois parce que certains airs la justifient, mais sinon il s'exprime d'abord, et il exprime d'abord une émotion, une vérité dramatique au travers de ses airs, et je pense qu'il le fait vraiment avec ses moyens comme un grand interprète qui aujourd'hui n'a pas à prouver qu'il est un phénomène de la voix, puisque au début c'est contre-ténor et ce sont des voix de tête simplement, hein, c'est pas des voix...
Au début, c'était des voix rares. Hein.
C'était des voix rares.
Il y en a beaucoup.
Je crois qu'à la base, Jarowski est baryton. D'ailleurs, souvent.
Oui, c'est ça. Oui.
Beaucoup de contre-ténors.
Oui, tout à fait. Donc, en même temps, je trouve qu'il est dans sa maturité et il chante avec naturel, surtout, et émotion à chaque note et dans chaque air. Donc, c'était une très belle soirée qui a été acclamée, bissée. Voilà. Oui,
oui. Beaucoup de sensibilité.
Oui. Alors, c'est un programme qui donne un peu partout, là, qui tourne pas mal. Oui. Apparemment, il arrive à faire que ça n'est pas un côté formaté, parce qu'il le donne un soir à un endroit, deux jours après un autre.
Oui, mais en plus, l'intérêt de ce concert, c'est qu'il était construit. C'est-à-dire, entre les airs, il faut quand même que le chanteur se repose un peu, il y avait des passages symphoniques, des extraits de concerto grosso, quelquefois un mouvement de concerto grosso, enchaîné à un autre mouvement d'un autre concerto grosso. Mais c'était fait avec tellement de goût, avec un enchaînement des tonalités, évidemment, qui convenait parfaitement, qu'on avait l'impression d'une grande symphonie pour voix et orchestre. Donc c'était vraiment très bien fait. Le concert était très bien organisé.
Bon, vous avez été tous les deux enchantés, semble-t-il, par la performance de Philippe Jarowski et de l'ensemble Martin Serse, ne l'oublions pas. Donc vendredi, la suite, c'était Bertrand Chamaillou et l'Orchestre National du Capitole. Ils ont pris la place dans une halle au grain qui m'a semblé être comble ce soir-là pour accueillir l'enfant du pays, multi-récompensé aux victoires de la musique classique et notre orchestre symphonique dirigé pour l'occasion par le chef letton Andris Pogar, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Il y avait un programme costaud, pour le dire un peu vulgairement, avec le concerto pour piano numéro 1 de Mendelssohn et la 6e symphonie de Mahler. Anne-Marie Chouchan, Serge Chosy et moi-même, nous étions dans le public. Serge Krzyzewski, vous étiez dans l'orchestre pour la 6e de Mahler. Je crois pouvoir dire que chacun à notre place, nous avons vécu une grande soirée de musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Ah oui, tout à fait, oui. Mais avec deux œuvres complètement opposées. Hein. Le concerto de Mendelssohn, une œuvre du bonheur, pétillante, pleine de jeunesse, de vitalité. Et la 6e symphonie de Mahler, une œuvre de tragique. Puisque
de gravité,
même,
oui.
C'est même son surnom, son sous-titre, hein, tragique.
Donné par Mahler lui-même.
Oui, exactement. Oui. Enfin, on finit abattu à la fin. Quoi. On est abattu par trois coups du destin qui sont monumentaux. Donc c'était un concert à deux faces, complètement opposées, mais un concert consistant, parce que très souvent la 6e est donnée toute seule hein, dans un concert.
Elle peut l'être, 1h20, c'est vrai que c'est ça.
C'était la première fois que vous la jouiez, vous, Serge?
Non, moi j'ai joué plusieurs fois, oui, je l'avais joué à Paris aussi.
Et c'est à chaque fois une nouvelle aventure que de jouer cette
Alors j'allais dire, justement, vous parliez des dimensions et de l'impact émotionnel de cette symphonie, c'est une épreuve pour les musiciens et pour le public, je pense. Voilà, 1h20 comme ça, 4 mouvements, alors il n'y en a que 4, rarement dans une symphonie de Mahler, souvent ils dépassent, ils vont jusqu'à 5, 6 facilement, parfois 2 exceptionnellement dans la symphonie des 1000. Mais là, c'est 4 mouvements a priori classiques, mais qui en fait contiennent une texture très très riche, très dense, extrêmement travaillée et assez sombre. Enfin, il y a le mouvement lent qui plane au-dessus.
Anne-Marie ?
Oui, une question, moi aussi, à Serge. Vous y étiez aussi, Sabine, dans l'orchestre, non ?
Non, Sandrine.
Non,
pas.
Sandrine. C'est pas un concert que j'ai fait, mais j'ai déjà joué d'autres symphonies de Mahler. J'ai déjà joué cette symphonie et je rejoins Serge.
Au plan technique, c'est difficile, vraiment, pour les solistes, notamment, de l'orchestre ?
Alors, je dirais que c'est pas pour les solistes que c'est forcément le plus difficile, parce qu'il y a un côté d'endurance qui est, je pense, excessivement difficile pour l'ensemble des cordes, qui ne sont pas solistes, à part quelques solos de violon, mais il faut tenir la route, quoi. C'est 1h20, le quatuor à cordes joue 1h20. Les vents, c'est vrai qu'on est un peu plus
soliste. On joue un tout petit peu moins, pas beaucoup moins dans cette symphonie, mais c'est vrai que, oui, pour les cordes, Sandrine a tout à fait raison. C'est très éprouvant.
C'est un peu concentration.
Physiquement, concentration.
Pour moi, on a moins d'endurance physique. Et de toute façon, c'est quasiment tout le temps le cas. Mais par contre, la concentration, passer d'un rôle à l'autre, quand on est tutiste, puis d'un coup, on a un solo, ça, pendant 1h20, là, puis être si exigeant, toujours, pendant 1h20, et donner toujours la musique, ça, c'est...
Il y a une exigence nerveuse aussi, comme ça. Ça, il faut être à une écoute à 200% pour tout ce qui peut se passer. Et c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses. Quand on passe comme ça 1h20 collectivement avec 100 musiciens ou 105 musiciens, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce poids sur les cordes en particulier, oui.
Et l'importance du chef dans cette œuvre, c'est le chef qui doit tenir tout ça pendant ces 1h30.
Paradoxalement, j'aurais une réponse un peu ambivalente, c'est-à-dire que Gustav Mahler a été lui-même un grand chef d'orchestre, il connaissait très très bien tous les répertoires antérieurs, et il a écrit cette musique en connaissant extrêmement bien l'orchestre. Il a même d'ailleurs, dans la plupart de ses symphonies, légèrement retouché l'orchestration une ou deux fois avant de mourir. Et en fait, la musique est tellement bien écrite avec beaucoup de précision, puis c'est une musique qui sonne très très bien, qui est pensée c'est vraiment directement pour les instruments, avec les masses et puis les sonorités des bois, des cuivres, etc., que finalement, la musique elle-même, déjà, elle est très très bien écrite. Après, Le problème, justement, c'est d'avoir un chef qui donne une vision, qui donne un petit peu un grand souffle, surtout sur ces architectures énormes que sont les symphonies de Mahler, de Bruckner, etc. Il faut un chef qui ait un souffle très grand, très long, très profond, et puis une vision à faire passer. Pas forcément par des mots, puisqu'on sait très bien que c'est parfois le bras ou le regard ou le comportement, mais voilà. Et c'est ça que je dirais, c'est-à-dire que c'est à la fois une œuvre qui est éprouvante physiquement aussi pour le chef, mais qui demande une vision, une conception quand même puissante, en connaissant bien l'univers de Mahler, et puis la symphonie en particulier.
Oui, parce que j'ai l'impression que tout de même, il faut que le chef tienne toute cette énorme architecture, parce qu'il y a quand même sans cesse des articulations, des transitions. Si quelque chose n'est pas tenu pour l'unité de l'œuvre...
C'est une musique tendue, c'est une musique très tendue, oui. même dans les moments, dans les mouvements de repos, effectivement, mouvements lents, ou bon, par exemple, une chose que les gens connaissent peut-être mieux, naturellement, c'est l'adagietto de la symphonie numéro 5, qui est avec cordes et harpe. C'est une pièce absolument magnifique, qui n'est pas très longue, mais il y a une tension comme ça, au niveau poétique, esthétique. Toute la musique de Mahler est comme ça. C'est une musique très très extrême par l'émotion qu'elle dégage, qu'elle demande. Et donc il faut un chef, il ne faut pas être super cool non plus. Je pense que ça ne convient pas à l'univers de ce compositeur.
Alors ça nous amène à parler d'Andris Poga, ce chef letton qui a déjà été invité plusieurs fois à diriger l'orchestre du Capitole. Donc vous, Sandrine et Serge qui avez eu affaire à lui directement, comment est-il en termes de direction par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a des particularités?
Je crois que alors, bah, je laisserai beaucoup. Sandrine donner son avis pour les expériences antérieures qu'elle a eues. Peut-être
qu'il y a quelque chose
à Kovic, non, à Montpellier, non.
J'ai fait une symphonie fantastique avec lui. J'ai pas fait d'autres de séries. Mais moi, j'avais apprécié en même temps la finesse de son geste et en même temps justement cette vision de l'ensemble de l'œuvre. Mais je n'ai fait qu'un concert avec lui.
Oui, c'est un chef qui a beaucoup de talent, bon, qui a déjà pas mal de métiers. Après, il y a un moment aussi, un des problèmes quand on nous demande notre avis, c'est qu'en fait, dans deux symphonies, deux fois la même symphonie avec des chefs différents, il y a un stade où, voilà, il y a une vision qui passe, mais finalement, ça peut être à chaque fois différent. Et puis, alors, il y a une chose aussi qui est très particulière, c'est que quand on est à l'intérieur, quand on joue dans un concert, notre perception est un petit peu modifiée par le fait qu'on est acteur. Donc, c'est notre perception, mais une perception de l'intérieur avec effectivement notre concentration importante qui est donnée pour jouer, pour pouvoir être avec nos collègues. Et du coup, on n'a pas ce point de recul que vous avez pu avoir tous les trois, mais c'est toujours enrichissant, toujours différent, toujours passionnant.
C'est ce qui fait le plaisir extraordinaire du concert. Hein. La même œuvre jouée deux fois, même à la limite par les mêmes interprètes, c'est pas la même
absolument,
chose.
Absolument.
Je voudrais qu'on fasse un point sur deux pupitres, dont on ne parle pas forcément, mais qu'il a été très présent évidemment, les cuivres et les percussions. Parce que moi, j'ai trouvé que leur performance était formidable. Et j'étais sur le côté, je les voyais bien, il y avait quand même 20 cuivres, dont 9 corps.
Oui.
Il y a un solo de corps magnifique.
Alors ça, il faut vraiment rendre hommage à Jacques Deleplanque, hein, un corps solo. Tous ses solos, il en a plusieurs tout au long de la symphonie, presque un par mouvement.
Il a pas raté ça. Hein.
Ah oui, avec une aisance. Et puis il y a certains traits de la trompette que tenait Hugo Blacher, qui sont, disons, le casse-gueule complètement.
Oui.
Et il a fait ça avec une facilité, une aisance.
Ça avait l'air facile, ça n'était sûrement pas.
C'est ça, voilà. Le travail a effacé le travail.
Exactement.
Un tout petit truc, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une chose qui va forcément avec le corps, qui évoque la montagne, c'est les cloches de vaches qui sont présentes dans cette symphonie qu'on ne peut pas oublier. Alors je vous laisse peut-être nous donner, Eric, votre perception des cloches.
Moi, d'où j'étais, je ne voyais pas très bien ce qu'il
disait. On avait un assistant, c'est Thibaut Buchaillet, fantastique dans cet emploi.
Et je ne sais pas ce qu'il employait comme ustensile. De loin, ça ressemblait à des casseroles, mais je ne sais pas ce que c'était.
Et à l'oreille aussi, peut-être.
Les cloches de vaches, vraiment.
Oui,
de loin, ça ressemble à ça, mais je ne sais pas si c'était ça.
Alors, il y a une chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que Andris Poga, ils ont fait des expérimentations, c'est-à-dire ils avaient des cloches de différentes tailles et suivant la manière dont on les frappait, le rythme aussi, parce que le signe noté par Mahler est un signe assez approximatif. Ils souhaitent la sonorité des cloches pendant une période qui correspond à la période où se déroule la musique, mais il n'y a pas les hauteurs, enfin c'est noté de façon assez succincte. Et donc le chef avec Thibaut, ils ont organisé cette manière de
Et puis il y avait l'enclume à la fin.
C'est un enclume de bois.
En bois,
grand marteau.
Avec le gros maillet, là, on tape dessus. Là,
ça, c'est effrayant.
C'est fait pour visuellement et stupéfiant.
Il ne faut pas oublier que Gustav Mahler disait qu'il voulait bâtir un monde avec ses symphonies. Et que c'est un monde, à la fois un monde au sens, parce qu'il voulait dire beaucoup de choses, mais en même temps, c'est tout un monde musical, avec tous les instruments inimaginables. Et je crois que c'est dans cette. Je crois, j'en suis quasiment sûr, que c'est à propos de la 6e symphonie qu'il y a un caricaturiste de l'époque, y a un dessin dans lequel...
Absolument, je l'ai vu tout à l'heure, ce dessin.
Gustav Mahler, entouré de tas d'instruments, il dit « Zut, j'ai oublié le marteau,
le klaxon,
voilà. »
Donc il y avait, il y avait l'ironie
de dire que finalement, il a voulu multiplier. Et moi, je trouve ça fabuleux, d'ailleurs, parce que j'adore cette musique, pour vous dire.
Et puis c'était le grand chef du Fortissimo. Souvenons-nous, quand il est allé visiter les chutes du Niagara, quand il est arrivé au bord des chutes, il a dit « Endlich ein Fortissimo !» Enfin un Fortissimo.
Alors, je ne voudrais pas qu'on oublie qu'il y a eu une première partie de concert avec le premier concerto de Mendelssohn que vous avez évoqué un petit peu, Serge, mais aussi Bertrand Chamaillou, compagnon de route pour l'Orchestre du Capitole. Vous avez joué je ne sais pas combien de fois avec lui, et encore tout récemment, en tournée en Amérique du Sud. Et vous l'adorez, je crois. Vous adorez jouer avec lui.
Oui, c'est toujours
bien musicien
un grand plaisir de le voir et de l'entendre. Oui, une grande simplicité et puis un talent. On avait deux concertos très beaux et qu'on joue pas très souvent pendant la tournée, donc le 5e de Saint-Saëns et le concerto de Shostakovich. Et là, encore un autre concerto, puisqu'il a un répertoire très très large, Bertrand, premier de Mendelssohn, qui vient contrepoint, effectivement, un petit peu plus léger, pas un apéritif, parce qu'il jouait ça avec une élégance et volubilité parfaite.
Il a 36 ans, Bertrand Chamaillou, il est encore très jeune, mais il arrive vraiment à la maturité, je pense, pour un pianiste à cet âge-là, c'est le moment où il y a à la fois l'expérience et encore la fougue, ce mélange de maîtrise.
C'était une interprétation très juvénile, très légère, à la fois virtuose, mais transparente, vive, animée, donc c'était un vrai plaisir.
Puis Mendelssohn, c'est un registre où
il est très à l'aise.
Et je dois dire que l'orchestre, moi j'ai entendu la générale, a très bien réagi, c'est-à-dire c'est un style qui est finalement très différent évidemment de la deuxième partie, la symphonie de Mahler, et je pense que le chef a obtenu, et les musiciens ont très bien réagi, un style très léger, vraiment mozartien, enfin de Mendelssohn jeune, avec une écriture très transparente, qui a vraiment été dans le sens de ce que voulait, je pense, Bertrand.
Eh bien justement, on va l'écouter, Bertrand Chamaillou, dans une interprétation d'un morceau de Mendelssohn. Il s'agit du Scherzo d'une songe d'une nuit d'été dans la transcription de Serge Rachmaninoff. Le Scherzo du songe de nuit d'été de Félix Mendelssohn, interprété par Bertrand Chamaillou dans une transcription de Serge Rachmaninoff, un extrait du CD que le jeune pianiste toulousain avait consacré à Mendelssohn et paru sous le label Naïve en 2008. Nous allons rester à la Halle au Grain pour revenir maintenant sur le concert qu'ont donné samedi dernier un autre virtuose français, le violoniste Renaud Capuçon. Il était avec l'orchestre de chambre d'Europe dirigé par le chef britannique Nicolas Colon, en remplacement de Jaap van Zweden, finalement forfait. Au programme, la symphonie de chambre opus 110 A de Shostakovich, la sérénade de Leonard Bernstein et la symphonie numéro 5 de Beethoven. Avant de parler de la prestation de Renaud Capuçon et de l'Orchestre de Chambre d'Europe, je voudrais qu'on parle des œuvres qu'ils ont jouées. Et pour commencer, cette magnifique symphonie de chambre opus 110A de Shostakovich, que pour ma part je n'avais jamais entendu en concert. Et franchement, c'était un morceau formidable.
Fabuleux.
Fabuleux.
C'était une découverte aussi pour vous deux, vous l'aviez déjà entendu?
Non, je l'avais entendu surtout dans sa version quatuor, puisque c'est le 8e quatuor de Shostakovich que Rudolf Barschai a orchestré.
Il y a une version avec orchestre de Rudolf Barschai, avec des bois, et il y a une version pour orchestre à cordes.
Voilà, là c'était la version pour orchestre à cordes de Barschai, donc approuvée par Shostakovich. C'est une œuvre de tension, du début à la fin.
On passe par tous les sentiments, je trouve.
C'est surtout une angoisse. Oui. Une angoisse, une désolation, enfin.
Oui, on sent bien quels étaient ses états d'âme à l'époque.
Avec sa fameuse signature, puisque le thème que l'on retrouve, le
monogramme musical.
DSCH, donc. Oui.
Correspond à quatre notes qui forment un thème et qu'on entend pendant toute l'œuvre.
Pendant toute l'œuvre. C'est un peu le fil rouge de l'œuvre. Il avait dit à propos de ça qu'il ne savait pas si quelqu'un écrirait quand il serait mort sur sa tombe, écrirait quoi que ce soit. Alors, c'est ça, pour lui, c'était l'épitaphe, son auto-épitaphe en quelque sorte. Magnifique. Et ça a été joué formidablement par l'orchestre.
Vous, Anne-Marie, qui adorait Shostakovich, vous êtes régalée.
Oui, j'adore Shostakovich parce que contrairement même à ce qui est écrit dans le programme, c'est pas parce qu'il a été oublié, il a été inféodé à un régime, disons, particulier, assez contraignant, que lui-même s'est plié uniquement au diktat de qu'on voulait lui signifier. En même temps, dans cette œuvre, il montre partout d'ailleurs une angoisse sous-jacente, au contraire, et la façon dont il réagissait finalement à toutes les exigences du régime qui voulait lui faire dire ceci ou cela, et qui finalement, dans sa musique, on se rend compte qu'il a une liberté fondamentale, et surtout même, il arrive à traduire des choses qu'on n'entend pas toujours à travers la musique, quelle qu'elle soit.
Son seul moyen de s'exprimer, je crois.
On peut dire que c'est un bel exemple de résistance intérieure, tout à fait musicale.
Très bien dit, voilà ce que, exactement, c'est tout à fait ça. Aussi, je crois qu'il ne suffit pas dans les arts, que ce soit la musique ou d'autres arts. La liberté, c'est une chose, mais il ne suffit pas d'être libre pour être génial. Et quand on est contraint, on peut...
Absolument, c'est tout à fait juste. Oui. C'est vrai que Shostakovich a toute sa vie souhaité rester en Union soviétique. Il était très, très attaché à sa terre. Et il a cherché à développer son génie par tous les moyens, même avec des contraintes.
Oui, c'était superbement bien joué, en plus par cet orchestre, avec des pianissimo au début, sissimi, des cordes très sombres. Et ce jeune chef, qui était déjà venu au Capitole.
Oui, deux fois, oui.
Nicolas Colonne.
Invité par l'orchestre du Capitole.
Je ne m'en souvenais pas tellement de lui.
Mais... Il avait dirigé
les planètes.
Gustav Holst.
Et là, il a montré... Là, une...
Ah oui, il a très bien remplacé quasi au pied levé, Jaban Zweden, ce qui n'était pas forcément facile.
Oui, non, c'était une très très belle œuvre. Et puis, suivi de cette sérénade de Léonard Bernstein.
C'est là qu'intervient Renaud Capuçon.
Renaud Capuçon, qui nous l'a joué sur l'instrument, le merveilleux violon Guarnerius, Panette le nom, qui a appartenu à Isaac Stern, et le même violon qui a créé cette œuvre en 1954 sous la direction de Leonard Bernstein lui-même. Oui, voilà, avec le Philharmonique d'Israël. Donc, pour Renaud Capuçon, il y avait une vraie émotion à faire entendre les mêmes couleurs de la création de l'œuvre avec cet instrument. Et c'est vrai que cet instrument a non seulement de merveilleuses couleurs, mais en même temps, cette œuvre qui est un peu particulière. Elle est
particulière.
Alors, voilà, sérénade, j'avoue qu'au début, j'étais un petit peu décontenancé par le début de l'œuvre.
Moi aussi.
Après, il y a de très belles choses, c'est vrai. Ouais.
C'est incroyable, c'est d'après le texte, le banquet de Platon. Et chaque mouvement, chacun des cinq mouvements représente un personnage. Donc ça parle de Phèdre, de Pausanias, d'Aristophane, etc. Il y a certains mouvements un peu... Moi, j'ai beaucoup aimé le presto, là. Éric Simac, personnage dont j'avoue ne pas connaître grand-chose. Mais le mouvement correspondant était d'une impertinence tout à fait bernsteinienne, si je peux utiliser ce vocable. C'est très bien, c'est une œuvre légère, mais...
Oui, qui était à découvrir.
Oui, qu'il fallait découvrir, absolument.
Oui, j'ai envie de vous demander, puisque je ne pouvais pas être là malheureusement, est-ce que c'est une œuvre qui a réussi à vous faire oublier West Side Story?
Oui, à mon avis, oui.
Enfin, j'ai pas pensé à West Side Story.
Pas du tout.
Écoutant, personnellement.
Serge aussi a raison de dire ça, parce que l'autre jour, c'est ce que je crois nous avons exprimé.
Oui, on va parler
de c'est-à-dire de savoir Bernstein toute sa vie. C'est vrai que le fait qu'il ait écrit West Side Story, il y a collé à la peau, puisque ses grands succès sont venus des comédies musicales, dont West Side Story. Et qu'ensuite, quand il a voulu écrire de la musique dite classique, il n'est pas forcément arrivé à obtenir la même notoriété. Parce qu'il a été en plus célébrissime, c'est devenu un chef mythique, aussi mythique à l'époque qu'Arian. Il a signé une intégrale des symphonies de Mahler qui fait toujours référence. Donc il a été célébrissime par le métier de chef d'orchestre, les comédies musicales, et ses œuvres classiques sont restées toujours un peu en retrait.
C'est
pour ça que ce que dit Serge est pertinent, parce que c'est vrai, est-ce que ça fait oublier?
Oui, alors là, il aurait fallu faire un sondage dans le public.
Non, non, mais bon, c'est vrai que les œuvres, disons, sérieuses, entre guillemets, de Leonard Bernstein mériteraient peut-être de...
Plus jouer.
Il y a des symphonies, oui, oui. Peut-être que ça viendra.
Et c'est vrai que ce n'est pas des œuvres qui se laissent approuvoiser très facilement, non. finalement. Mmh, mmh. Mais aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre. Oui. Et, moi, oui. Je sais qu'il y a une pièce pour flûte vraiment qui fait partie de ces œuvres qui demandent de plusieurs écoutes, qui sont des œuvres très profondes, presque un peu ésotériques, quoi. Et on ne la joue jamais. Pourtant, c'est une pièce vraiment très riche et très intéressante.
Eh bien, voilà une idée à donner à ceux qui font la programmation de l'Orchestre National du Capitole. Bon, on ne va pas parler de la cinquième de Beethoven, parce que c'est toujours une merveille. L'Orchestre de Chambre d'Europe, formidable.
Magnifique.
Oui, fantastique.
Bah,
hein.
Ils en ont donné là une version qui se détache des versions les plus traditionnelles, en ce sens que c'était d'une transparence incroyable, une version de chambre.
Oui, oui.
Et je mets des guillemets à deux chambres.
Une quarantaine de musiciens. Hein,
oui, avec et qui redonne...
Cinquantaine peut-être.
Qui redonne, je dirais, un peu de grain à moudre au vent. Les vents reprennent du poil de la bête, d'accord, si je puis dire, étant donné qu'il n'y a pas un effectif de cordes, la fameuse moquette de cordes qu'on entend d'habitude dans cette symphonie. Donc, j'ai trouvé très intéressant, avec de grands moments, de beaux moments, notamment la transition entre le troisième et le quatrième mouvement, qui est une attente, on retient sa respiration, c'était très bien fait, très bien fait.
Allez, on conclut la première partie de cette émission là-dessus. Rendez-vous dans une minute pour l'agenda de la semaine prochaine. Restez sur Radio Présence, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Suite et seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre En Harmonie, membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et donc Sandrine Tilly, flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole et vice-présidente de l'association Gabriel Fauré.
Mélomanie. L'agenda.
Sandrine Tilly est donc vice-présidente de l'association Gabriel Fauré qui organise une saison de concerts à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Le premier concert de cette saison est donné la semaine prochaine, jeudi 14 décembre à 20h30. Nous allons bien sûr évoquer son programme dans quelques instants. En préambule, il faut qu'on parle d'abord de cette association que vous dirigez depuis quelques années avec Philippe Tribault, votre compagnon lui-même violoncelliste de l'Orchestre National du Capitole. Comment vous bâtissez les programmations de vos saisons ? Est-ce que vous vous êtes donné des objectifs et des axes particuliers pour ça ?
Alors, finalement, on ne s'est pas vraiment donné un objectif au départ. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, l'objectif, je trouve que ça referme. Disons qu'il y a plusieurs axes qui nous intéressent. Le premier, celui qui nous est le plus facile, finalement, c'est les formations classiques de musique de chambre, notamment avec nos collègues de l'Orchestre du Capitole, voire nous-mêmes. On aime bien aussi programmer des concerts de musique de chambre qui ne sont pas forcément des formations classiques, aller voir un peu dans les instruments qui ne sont pas le piano, comme la guitare, la mandoline, l'an dernier. Ou... Ensuite, on aime bien faire un concert carrément original. Alors, ça peut être du théâtre musical ou cette année, je vous en parlais, on va faire un ciné-concert. Et régulièrement, pas forcément chaque saison, mais régulièrement, on aime que la scène soit ouverte à des jeunes talents, mais pas des tout jeunes talents, des gens qui ont déjà le niveau de professionnel et qui ont juste besoin d'avoir un peu les pieds mis sur une scène. Et on a fait ça plusieurs fois avec des gens qui étaient originaires de la région. On a fait un concert donc, avec tous ces jeunes qui rayonnent maintenant un peu en France pour les regrouper. On a fait un concert qui a été offert à l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Et cette année, donc on a à nouveau un concert pour les jeunes talents.
On va en parler, mais le premier concert, c'est donc le jeudi 14 décembre à 20h30. Vous deviez jouer un programme de trio et fantaisie avec Philippe Tribault et le pianiste Philippe Monferrand. Mais malheureusement, il va y avoir un changement de programme. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, Philippe Tribault, le violoncelliste et donc président de l'association, s'est fait mal au doigt. Alors, on parlait tout à l'heure dans Malheur et de la charge des instrumentistes à cordes dans un orchestre symphonique. Finalement, il y a un moment, il peut y avoir des blessures qui sont dues à des œuvres qui sont longues, contraignantes, tout ça. Et bah, malheureusement, Philippe a mal au doigt parce qu'il a trop joué de violoncelle. Donc, le seul remède, c'est de ne pas en jouer pendant quelques semaines et ça tombe en ce moment. Donc, on a pensé à plusieurs solutions. Finalement, nous avons choisi de ne pas annuler le concert, ce qui était notre priorité. Et je donnerai donc un concert sans violoncelle, flûte et piano, avec Philippe Monferrand, le pianiste avec qui je joue régulièrement. Et il se trouve qu'on avait un programme sous la main, donc on va changer certaines pièces, pas toutes, et on va essayer de donner un très beau concert, j'espère, qui va plaire au public, mais qui n'est pas avec les mêmes œuvres, évidemment.
Alors, dites-nous quelles œuvres vont finalement être jouées le 14 décembre.
Il était prévu qu'entre les deux trios qu'on devait jouer, quand je joue la fantaisie sur Carmen, qui est une pièce d'une grande virtuosité pour flûte, qui est très publique et qui plaît beaucoup, donc ça, on la garde. Nous jouerons la fantaisie sur Carmen de François Born avec Philippe Monferrand.
En fait, ce sont les airs célèbres de Carmen
comme au tournant du 19e au 20e siècle, ça s'est fait beaucoup, surtout au Liszt, ça fait ça, on prend les airs célèbres et puis on les varie avec des morceaux de grande virtuosité. Donc là, François Born, qui a écrit cette fantaisie sur Carmen, était flûtiste, était un flûtiste toulousain. C'est la seule chose que je sais de lui, d'ailleurs, j'ai rien trouvé d'autre.
C'est
peut-être la seule chose qu'il ait écrite. En tout cas, il a écrit une super...
Il y a Franz Waxman qui en a écrit une célèbre pour le violon aussi, vous la jouez aussi.
Non, mais je la connais. Et puis il y a Sarrasate aussi. Donc, c'est dans la même veine, sauf que celle-là est pour flûte. Donc, on entend notamment l'air de la Banera, qui est varié deux fois, donc deux variations sur cet air. Il y a plusieurs airs comme ça.
Les airs célèbres de Carmen.
Voilà, franchement, c'est très chouette. Ensuite, deux grandes sonates du répertoire, la sonate de Poulenc et la sonate de Prokofiev. Pour un flûtiste, c'est pas super original de jouer ça, mais pour un public, c'est quand même relativement original de l'entendre. Donc, la sonate de Poulenc est une sonate finalement assez tardive. Elle était écrite en
37 et créée par Rampal, je crois.
Voilà, créée par Rampal. C'est une sonate très, 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 très jolie, très séduisante, avec un deuxième mouvement qui manque pas de profondeur. Et c'est quand même une des pièces les plus célèbre pour flûte. Ensuite, la sonate de Prokofiev, qui est une œuvre qui a été composée pendant la guerre, hein, qui date de 1942, donc qui est un petit peu plus tourmentée. Puis Prokofiev avait une musique assez complexe, qui fait penser à Shostakovich de temps en temps, cette sonate de Prokofiev. Elle a été créée donc en 1943 à Moscou. Donc, dans un Moscou, ça devait pas être super rigolo.
Non, ça devait pas être très drôle.
Je me rappelle plus le nom du flûtiste. Alors, d'abord, elle a été écrite pour flûte. Je me rappelle plus le nom du flûtiste, mais c'était Richter au piano. Voilà, donc Ensuite, David Oistrakh, le violoniste, l'a trouvé tellement bien cette sonate qu'il en a demandé une version à Prokofiev pour violon, qui est la deuxième sonate pour violon, plus connue, mais c'est la même chose en fait. Hein. Il y a quelques arrangements qui ont été faits. Et la sonate de flûte telle qu'on la joue maintenant, on s'inspire un petit peu des deux versions pour certains détails.
Elles ne sont pas si distinctes que
elles
ça.
Elles sont très peu
ça.
Distinctes. Très peu, je montrerai la partition, tu verras.
D'accord.
Il y a plusieurs, selon les éditeurs, on prend là
Très bien, mais c'est bien.
Moi, j'ai bidouillé même certaines choses qui me plaisent en version de violon. De toute façon, toujours, ce ne sont que des détails qui changent. Donc, est-ce que c'est une sonate de flûte ou une sonate de violon? Moi, je dirais que c'est une sonate de flûte, mais c'est aussi une sonate de violon.
Non, mais il y a quelques exemples. Il y a les sonates de Brahms pour alto ou clarinette. Voilà. Toutes les deux sont magnifiques dans un genre différent.
Voilà. Et pour quand même garder un petit peu, au départ, on avait prévu un programme autour de Mendelssohn et Weber, donc on va quand même aller faire une petite incursion dans le répertoire allemand, puisqu'on va jouer du Schumann, les romances de Schumann, qui sont décrites au départ pour hautbois ou violon, et ben là ce sera à la flûte. Pourquoi est-ce qu'on les joue? D'abord, la partie de piano était extraordinairement poétique et on aime bien les jouer, donc voilà.
C'est pourquoi s'en priver?
Pourquoi s'en priver? Ça marche bien à la flûte quand même, et c'est plus dans le style des leaders, c'est-à-dire que c'est pas une sonate, c'est trois pièces qui racontent chacune une chose. Donc on va donner ça avec Philippe Monferrand.
Eh bien, vous avez parlé de la sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc. On va en écouter un extrait interprété par vous-même et votre complice Anne Le Bozec, vieil ami du conservatoire, je crois.
Oh, oui, oui, oui. On n'est pas si vieille que ça, mais
non,
oui.
Non, vieil ami au sens, c'est l'amitié qui est vieille.
L'amitié est vieille. Non,
je ne parle pas des deux personnes en question.
Et d'ailleurs, Anne Bozek et Philippe Monferrand se connaissent et on jouait, on avait fait un carnaval des animaux avec les deux. C'était super d'avoir les deux.
Et bien là, maintenant, on écoute la sonate pour flûte et piano de Poulenc, interprétée par Sandrine Tilly et Anne Bozek. La sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc, interprétée par Sandrine Tilly et Anne Bozek. Vous jouerez donc cette pièce avec Philippe Monferrand cette fois-ci, lors du premier concert de la saison, le jeudi 14 décembre à 20h30. C'est donc à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Alors, les autres rendez-vous de la saison, les prochains, parce qu'il y a deux concerts, mardi 16 janvier et mercredi 17, flûte et flûte. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, flûte et flûte. Bon, on reste dans le registre de la flûte. Au départ, ce n'était pas vraiment prévu comme ça, mais normalement, on aurait dû avoir moins de flûte au concert qu'on va donner la semaine prochaine. Flûte et flûte, c'est l'occasion pour l'association Gabriel Fauré d'inviter des jeunes talents. Et cette fois-ci, ce sont des jeunes musiciens du Conservatoire supérieur de musique de Paris. Il se trouve que la classe de flûte y est très dynamique. Leur professeur, c'est Sophie Cherrier, qui est la soliste de l'ensemble intercontemporain, qui a été pendant longtemps la flûtiste de Boulez. Donc, une classe très dynamique qui a monté il y a peu de temps pour le Théâtre du Châtelet, pour les Matins du Châtelet, un spectacle sur la flûte. Mais pas sur la flûte comme ça, on va vous jouer quelques morceaux de flûte. Non, ils ont fait vraiment un spectacle théâtral où ils se sont inventés des rôles, ils ont écrit ensemble une petite mise en scène. Et pour faire découvrir le monde de la flûte, mais aussi le monde de la musique, à un public vraiment aussi varié que possible, puisque ça peut s'adresser à un public de scolaire comme à un public de concert du soir. Alors, il faut noter aussi qu'il y aura 13 flûtistes. Il ne faut pas être effrayé par le nombre, mais il faut voir la qualité. 13 flûtistes de qualité sur scène, plus une pianiste et une chanteuse. Je ne connais pas les détails du spectacle, mais j'ai ma petite idée sur le rôle de la chanteuse. Il y a souvent des liens entre le chant, la soprane et la flûte dans le répertoire. Donc, pourquoi deux dates? Un mardi soir pour le public, le grand public.
À 20h30.
Voilà, 20h30. Et puis, quand même, le lendemain, nous souhaitions proposer à un jeune public, ce sera le même spectacle, mais ce ne sera pas les mêmes oreilles qui écouteront. On ne change pas ce qu'il y a sur scène, on change l'âge des oreilles de la salle. Et la moitié du public sera donc les scolaires et les claés de la ville de Saint-Jean. On est partenaires, et donc ils vont remplir moitié de la salle. Et l'autre moitié de la salle, la billetterie est ouverte à tous les jeunes qui veulent écouter avec leurs grands-parents, nounous, frères et sœurs, qui veulent venir écouter et avoir un mercredi après-midi musical et flûtistique.
Flûte et flûte avec les élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. C'est les mardis 16 janvier à 20h30 et mercredi 17 à 14h30. Et le rendez-vous suivant, ce sera au printemps, le 30 mars, Cantares avec Magali Léger et Gilbert Clamens. Alors là, il faut présenter les deux. Magali Léger, on la voit beaucoup dans la région depuis quelques temps. Elle doit s'y plaire, manifestement. On la voit beaucoup à Toulouse. Et puis Gilbert Clamens, ben, il est toulousain.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, finalement, c'est le concert que je connais le moins. Je pense que vous avez déjà entendu Magali plus souvent que moi. Moi, je l'ai déjà entendu. Oui. Et Gilbert aussi. Il nous propose un programme autour de l'Espagne. Donc voilà, vraiment thématique cette fois-ci. Donc la guitare, évidemment, s'y prête très très bien. Et j'imagine que la voix de Magali aussi.
Ça semble la passionner, en tout cas, la musique espagnole et les chants. On l'avait vu à Rochemontès, oui, hein, oui, Serge, vous y étiez.
Hein. Bien sûr.
Moi aussi, j'étais. J'avais joué.
Vous y étiez aussi. Bon, voilà. Il se trouve qu'ils se produisent aussi ce samedi 9 décembre au Théâtre Municipal d'Hélice à Albi pour le même programme. Donc ceux qui veulent avoir un avant-goût, il faut aller à Albi ce samedi. Le dernier concert de la saison, ce sera le 1er juin. Alors, c'est pas un concert, c'est un ciné-concert.
Voilà, c'est
un amour de Max.
Un amour de Max, donc un ciné-concert autour des films de Max Linder. Donc, comme je disais tout à l'heure, on aime bien faire un concert vraiment original, un peu différent. Cette année, donc, on avait entendu avec Philippe Tribault donc, ce spectacle, le ciné-concert au Festival des Arcs. Et bon, j'avais adoré, j'avais passé un moment mais de pur bonheur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ciné-concert, ça veut dire que Bruno Maurice, qui est l'accordéoniste, qui est en charge de la production de spectacle, a choisi un certain nombre de courts-métrages de Max Linder, donc qui sont muets, et les a mis dans un ordre qui lui convenait pour raconter finalement un grand film d'une heure. Et là-dessus, lui, il improvise quasiment. Il y a des choses qu'il sait qu'il va faire à l'avance, mais quand même, il se laisse une grande, grande, grande liberté pour improviser et au moment où il voit les films. Évidemment, il les connaît mieux que nous, mais une grande part est laissée à sa fantaisie et à son imagination. Et l'accordéon est un instrument qui se prête merveilleusement à ça, parce que c'est un instrument qui peut faire aussi bien des choses très classiques, mélodiques, harmoniques, des choses beaucoup plus populaires, puisque c'est un peu l'image qu'on a dans notre imaginaire. Et puis, l'accordéon peut faire des bruitages incroyables. Mais vraiment des trucs...
Je pense que pour des chutes ou des choses comme ça,
on peut faire des choses incroyables avec un accordéon. Donc, on peut s'attendre à une soirée vraiment très spéciale.
On devrait beaucoup rire. C'est vrai qu'on est plus habitué au piano quand même pour les ciné-concerts, hein, à l'origine.
Oui, mais l'accordéon étant le piano du pauvre,
apparemment... Tête de la bouche.
Puis on est habitué à l'orgue aussi pour accompagner.
Alors oui, parce qu'il y a eu un précédent tout récent de ciné-concert avec un film de Max Linder.
Il y avait eu Jeanne d'Arc de Dreyer il y a quelques années avec Louis Robillard.
Oui. Alors là, c'est d'un autre registre. C'est moins drôle. Mais Max Linder, on l'a eu récemment à Toulouse des Orgues avec les Trois Mousquetaires.
Oui, les Trois Mousquetaires, oui, ce film désobéissant.
Accompagné à l'orgue.
Accompagné à l'orgue dans la Basilique Saint-Servin.
Et ça fonctionnait très bien.
Ah, formidablement, oui.
Alors, on a hâte de voir ça avec l'accordéon. Eh bien, je propose maintenant qu'on écoute Magali Léger et Gilbert Clamens, un extrait de Cantares, interprété par la chanteuse, la soprano Magali Léger et le guitariste Gilbert Clamens. Thank you.
quelques extraits de Cantares par le duo Magali Léger et Gilbert Clamens, la belle musique espagnole dans toute sa noblesse et sa majesté. Magali Léger et Gilbert Clamens sont programmés le 30 mars prochain à l'espace Palumbo de Saint-Jean dans la saison de l'association Gabriel Fauré, mais vous pouvez les retrouver dès ce samedi 9 décembre à 20h30 à Albi au Théâtre Municipal d'Hélice, un concert donné dans le cadre de la saison de la scène nationale d'Albi. Il y a un autre concert ce week-end, pas très loin de Toulouse, celui que donne l'orchestre En Harmonie à l'espace Garonne de Gagnac-sur-Garonne. C'est ce dimanche 10 décembre à 16h. Celui qui dirige cet orchestre est parmi nous, c'est Serge Krichewski, un orchestre qui réunit de grands amateurs passionnés et des musiciens professionnels. Serge, quel programme allez-vous jouer dimanche avec quel soliste ?
Alors, on a un magnifique programme qui encadrera donc le concerto pour flûte et harpe avec notre collègue Joséphine Poncelin qui nous fait le plaisir de jouer avec...
Collègue de l'Orchestre du Capitole.
Collègue de l'Orchestre du Capitole et qui joue avec son associé, on va dire son harpiste parisien, donc Léo Doumen. Ce magnifique concerto pour flûte et harpe qui sera précédé d'une courte ouverture de Rossini, donc d'un opéra assez court, enfin une sorte de farce, Il Signor Bruschino, donc une ouverture très très vive. Et nous terminerons le programme avec la symphonie 6e, non pas de Mahler, mais de Franz Schubert. Un tout petit peu plus courte, mais difficile aussi quand même à soutenir et absolument superbe. On est très heureux de faire ce programme parce qu'on n'avait pas encore joué de Schubert avec cet orchestre. Le concerto pour flûte et harpe, on voulait le jouer depuis longtemps. Il nous a été demandé par des organisateurs très très attentionnés de la mairie de Gagnac. Nous sommes très heureux de pouvoir faire ça, donc c'est à 16h dimanche.
Eh bien, on va en écouter un petit extrait de ce concerto pour flûte et harpe de Mozart, le 2e mouvement, Andantino,
magnifique,
très connu, magnifique, écoutez ça. Célèbre 2e mouvement du concerto pour flûte et harpe de Mozart, une des 3 œuvres qu'interprète l'orchestre En Harmonie lors du concert qu'il donne à l'espace Garonne de Gagnac-sur-Garonne.
Au profit du Téléthon.
Au profit du Téléthon, vous avez raison de souligner Serge Krichewski, qui donc dirigera ce concert. C'est dimanche 10 décembre à 16h à l'espace Garonne de Gagnac-sur-Garonne. Il y a quelques semaines, nous recevions Jan Willem Janssen, le directeur artistique des Arts Renaissants. C'était peu avant le premier concert de leur saison, donné par le contre-ténor Damien Guillon et son ensemble Banquet Céleste à l'église Saint-Jérôme. Magnifique concert d'ailleurs, auquel plusieurs d'entre nous ont eu la chance d'assister. Le 2e concert de la saison a lieu mercredi 13 décembre à 20h30 à l'église du Musée des Augustins, cette fois-ci, et c'est encore la voix qui est à l'honneur avec les 12 chanteurs de l'ensemble britannique Stilley Antico. Ils vont interpréter un programme intitulé Puer Natus Est, composé de pièces vocales de la Renaissance pour Noël et l'Avent. Serge, vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur cette formation?
Oui, c'est une formation très célèbre qui est déjà venue d'ailleurs, également pour les Arts Renaissants, et qui est un chœur a cappella d'une douzaine de chanteurs, qui sont des chanteurs magnifiques. L'Angleterre est un peu la patrie de ce type d'ensemble vocaux. Donc c'est vraiment un bel ensemble qui nous vient et qui va donner un programme intelligemment conçu, une fois encore, avec une épine dorsale qui est la messe de Thomas Tallis, Puer Natus Est, et entre les sections de la messe, les ordinaires, il y aura d'autres œuvres de William Byrd, de Robert White, de John Shepard, d'autres compositeurs anglais, de l'époque où l'Angleterre s'est séparée de la papauté, en quelque sorte, et donc avec des œuvres à la fois en latin et quelques œuvres de plein chant et quelques œuvres d'anonymes aussi, donc qui vont s'intercaler au milieu des pièces de la messe de Thomas Tallis.
Si vous aimez la musique vocale, c'est vraiment un concert à ne pas rater.
Ah oui, oui, oui.
Donc le 13 décembre à 20h30 à l'église du Musée des Augustins, vous avez parlé de Thomas Tallis. On va écouter un petit extrait de ce programme Puer Natus Est, Videte Miraculum, interprété par le chœur Stilley Antico. Thank you.
Videte Miraculum de Thomas Tallis, interprété par l'ensemble Stile Antico. C'est une des pièces du programme Puer Natus Est que les 12 chanteurs du chœur britannique donnent le mercredi 13 décembre à 20h30 à l'église du Musée des Augustins pour le deuxième concert de la saison des Arts Renaissants. Un grand merci à vous quatre, Anne-Marie Chouchan, Sandrine Tilly, Serge Chauzy et Serge Krzyzewski pour votre participation à cette émission. Je rappelle que le premier concert de la saison de l'association Gabriel Fauré est donné le jeudi 14 décembre à 20h30 par Sandrine Tilly et Philippe Monferrand à l'espace Palumbo de Saint-Jean avec un beau programme d'œuvres de Poulenc, Prokofiev, Born et Schumann. Pour découvrir le reste de la saison de l'association Gabriel Fauré à Saint-Jean, vous pouvez consulter son site internet www.gabrielfauré.fr. L'orchestre en harmonie dirigé par Serge Krzyzewski est en concert ce dimanche 10 décembre à 16h à l'espace Garonne de Gagnac-sur-Garonne. Un concert au profit du Téléthon avec un programme Rossini, Mozart, Schubert. Il y a aussi un site web pour vous renseigner, www.orchestre.enharmonie.free.fr. Je rappelle aussi le deuxième concert de la saison des Arts Renaissants, ce mercredi 13 décembre à 20h30 à l'église du Musée des Augustins. Il est donné par l'ensemble Stile Antico, 12 chanteurs pour interpréter un programme de pièces vocales de la Renaissance. Vous pouvez en savoir plus en consultant le site www.art-renaissant.fr. L'Orchestre National du Capitole et le Chœur du Capitole donnent leur concert Bel Canto vendredi 15 décembre à 20h à la Halle au Grain. Il y a au programme le Stabat Mater de Rossini. L'Orchestre de Chambre de Toulouse est lui en concert la semaine prochaine, les jeudis 14 et vendredi 15 décembre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un programme entièrement consacré à Mozart. L'on trouve notamment ses deux premiers concertos pour violon. Je vous invite à vous connecter au site internet de l'orchestre pour en savoir plus, www.orchestredechambredetoulouse.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Johan Maté. Vous pouvez bien sûr écouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.